Et l'invité du grand entretien ce matin est historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale, membre du comité scientifique de la mission du centenaire de la Grande Guerre. Il intervient fréquemment dans le débat public quand une question d'histoire vient percuter l'actualité, notamment politique, et c'est fréquent, très fréquent dans notre pays. À côté de ses fonctions que je viens de décrire, il publie Le Pays disparu sur les traces de la RDA, c'est chez Stock. Vos questions au 01 45 24 7 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Nicolas Offenstadt, bonjour.
Bonjour.
C'est un très beau livre que vous publiez, un livre étrange, captivant. Vous travaillez donc sur un pays qui a disparu au sens strict lors de la réunification allemande. La RDA a été absorbée par la RFA. Et vous traquez la RDA dans ce livre, dans des usines, des écoles abandonnées, dans des brocantes, sur eBay, même dans un zoo. Ce n'est pas du tout l'histoire des batailles ou des grands hommes, mais celle des traces en train de s'effacer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rechercher ce pays ?
C'est son paysage d'abord. Vous savez, comme historien, moi je me promène beaucoup, c'est assez classique, hein, les historiens sont assez curieux. Et souvent, mes terrains de recherche, c'est les lieux qui me les donnent. D'ailleurs, pour la Grande Guerre aussi, lorsque j'avais travaillé sur le chemin des dames, c'est en me promenant sur le chemin des dames avec des habitants qui m'expliquaient des choses que j'ai eu envie de comprendre le lieu, que j'ai envie de travailler plus à fond. Et donc, j'ai beaucoup voyagé en Allemagne. J'étais frappé par ce paysage d'un pays qui est extrêmement riche, évidemment, l'Allemagne, un des plus puissants du monde. Et pourtant, quand vous vous promenez en Allemagne de l'Est, il y a des ruines partout.
Au cœur
même des plus belles villes comme Weimar, qui est connue, qui évoque le romantisme, qui évoque la littérature allemande. Et ben même au cœur de Weimar, vous trouvez partout des ruines, des maisons abandonnées, et vous trouvez aussi les traces du patrimoine socialiste, souvent marginalisé, souvent à côté, mais toujours là. J'ai trouvé ce paysage de l'Allemagne de l'Est tout à fait fascinant. Un mélange de ruines et finalement d'un pays qui n'est plus là, mais qui quand même a laissé des traces.
Pourquoi dites-vous que le pays est horizontal ?
Il est horizontal parce que, d'une certaine manière, il n'y a pas eu véritablement une réunification, au sens où deux entités, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, se seraient fusionnées, chacune apportant en quelque sorte une part de soi-même. En réalité, c'est une absorption. C'est-à-dire que tout le système socialiste a été, en quelque sorte, mis à bas. Et ça se marque symboliquement. C'est-à-dire qu'on a déboulonné des statues. Ces statues, on les retrouve dans les cours des musées et on les trouve parfois par terre, véritablement, comme si on ne voulait plus que le socialisme se représente comme quelque chose de vertical. On le retrouve aussi dans tous les panneaux, dans toutes les traces qui sont dans les garages des habitants, qui sont mis par terre. Et puis évidemment, à l'horizontale aussi, sur les tables des brocantes. Parce que tout le système matériel de la RDA, tous les produits qu'on considérait comme finalement pas très performants, par rapport à ceux de l'Allemagne de l'Ouest, ont été ensuite vendus. Les gens s'en sont débarrassés. Donc, c'est vendu sur eBay, c'est vendu dans les brocantes, à l'horizontale. Il y a un endroit qui est assez fascinant pour ça. C'était une des plus grandes sculptures de Lénine à Berlin, qui a été démontée. On l'a enterrée, puis on l'a retrouvée. Et sa tête, maintenant, elle est dans un musée à Berlin, à Spandau. Mais au lieu de la mettre droite, comme on pourrait imaginer un buste d'une sculpture antique, elle est allongée. Vous voyez toujours cette idée que la RDA, finalement, s'est terminée. Et donc, du coup, elle n'a plus de raison d'être en majesté. Elle est toujours à l'horizontale.
Nicolas Offenstadt, les ex-Allemands de l'Est que vous rencontrez dans le cadre de cette enquête vivent cette disparition, la disparition de leur pays. De quelle manière ?
Alors, il est évident que l'effacement de cette histoire, à la fois l'effacement des structures politiques, des structures économiques, mais aussi des noms de rues, mais aussi des endroits où ils avaient vécu. L'exemple les plus célèbres, c'est la destruction, la démolition du palais de la République au cœur de Berlin, qui va être remplacé par un château prussien. Donc vous voyez le symbole, un palais socialiste qui était ouvert à tout le monde pour venir jouer au bowling ou voir des spectacles devient un château prussien. Donc il y a toute une partie de leur passé qui disparaît. Et je pense que cet effacement symbolique est quelque chose de très dur à supporter. C'est ce qui explique qu'il y a encore véritablement une mentalité spécifique à l'Est qui est liée à cet effacement. Parce que quand on efface les structures socialistes, on efface aussi la répression. Et beaucoup de l'Allemand de l'Est est évidemment ravi de voir disparaître tous les mauvais côtés de la RDA, tout ce qui s'apparente à un état policier, à un régime évidemment répressif. Mais on a aussi fait disparaître ce qui était leur quotidien. La maison de la culture, où ils avaient pu rencontrer leurs premiers amours, où ils s'étaient amusés. Tout ça aussi est fermé et parfois en ruine. Donc je pense qu'il y a un sentiment de dévalorisation de son passé qui est ressenti de manière très forte et très douloureuse aussi par les Allemands. On le voit bien d'ailleurs. Il y a encore une identité est-allemande qui est basée sur cet effacement.
Alors justement, le sentiment d'avoir été effacé peut-il expliquer le fait que les violences politiques d'extrême droite autour de la présence des réfugiés, le réveil donc de cette partie-là du spectre politique allemand, se déroule à l'Est, à Chemnitz notamment.
Il est évident qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé depuis 1990 et ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on parle de l'effacement symbolique, mais vous savez, il y a encore deux Allemagnes d'une certaine manière. Il y a deux Allemagnes économiquement. Les salaires sont inférieurs, entre 15 et 30% en Allemagne de l'Est. Il y a beaucoup plus de chômage. Il y a eu aussi une perte démographique colossale, avec tout ce que ça veut dire. C'était souvent les plus diplômés, les plus actifs qui sont partis. Il y a eu une immigration, c'est 1 800 000 qui sont partis en Allemagne de l'Ouest. Donc vous imaginez un peu ces territoires. Les usines sont fermées. Il y a eu une émigration très importante. Donc il y a des rues qui ont été débaptisées. Il y a des maisons dans lesquelles on avait vécu, on s'était amusé, qui ont été détruites. Donc il y a quand même le sentiment d'être relégué, un sentiment d'abandon, hein, qu'on voit très bien dans les différentes enquêtes.
Dans un pays riche, puissant,
absolument,
et qui a tout de même investi dans sa réunification.
Bien sûr, il y a eu énormément de transferts de fonds, vous avez raison de le souligner, mais il n'empêche que ce sentiment est là, et particulièrement dans les petites villes qui parfois sont des déserts. Vous savez, vous voyez des villes qui sont parfois très belles, où il reste des anciens centres médiévaux, vous avez les ruines au milieu, vous avez l'abandon, vous ne pouvez pas trouver un restaurant le soir après 21h, les services publics sont quand même beaucoup moins importants. Alors il y a une différence avec les grandes villes, hein, comme Dresden ou Leipzig, mais dans ces endroits-là, il y a vraiment un sentiment d'être des citoyens de seconde zone, comme le disent les Allemands, des citoyens abandonnés, et surtout, et ça c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre quand votre passé est dévalorisé ? C'est-à-dire quand on raconte que votre histoire de vie, finalement, ça a été celle de la soumission à un régime dictatorial, que ça a été celle de l'échec économique, que ça a été celle, finalement, de la répression politique. Ce qui, évidemment, n'est qu'une lecture des choses. Mais c'est quand même dur à supporter d'imaginer qu'on a vécu uniquement comme un sujet passif, victime d'un régime qui nous a écrasés.
Mais ce qui est dur à comprendre, c'est comment on passe du communisme à l'extrême droite après une parenthèse de démocratie occidentale.
D'abord, il faut évidemment nuancer. Tous les Allemands de l'Est, évidemment, ne sont pas passés.
Mais vous voyez,
et la gauche est quand même, bien
la
sûr,
dynamique.
Alors, il y a eu des explications. D'abord, il faut rappeler quand même qu'il y a une gauche aussi qui est forte, hein, autour de Die Linke, hein, qui représente en partie les Allemands de l'Est. Donc, il y a aussi une gauche très importante. Il y a aussi des antifascistes, y compris à Chemnitz, hein. Il y a tout un milieu aussi antifasciste. Donc, il ne faut pas faire de l'Allemagne de l'Est une caricature. Et puis, il faut aussi rappeler, hein, que l'AfD est aussi assez puissante dans certaines régions d'Allemagne, et en particulier en Bavière, d'Allemagne de l'Ouest, pardon, en Bavière, dans le Bade-Württemberg. Donc, il ne faut pas caricaturer. Mais il est vrai qu'on a cherché un certain nombre d'explications propres à l'Allemagne de l'Est. Alors, il y a deux types d'explications qui s'affrontent, hein. C'est un gros débat en Allemagne, hein. Tout le monde se demande comment c'est possible, après tout le travail qu'on a fait, à la fois depuis 45 et depuis 90, comment on en est arrivé là? Comment ce pays qui a lutté contre toutes les violences politiques, contre le racisme, héritier du nazisme, comment est-ce qu'on, tout ça peut revenir? Alors, il y a une explication qui dit c'est de la faute à la RDA. C'est de la faute à la RDA. Pourquoi? Parce que ces Allemands de l'Est n'ont jamais appris la démocratie. Ils ne savent pas se comporter de manière, en quelque sorte, civile, hein, dans un rapport démocratique. Donc, une mauvaise éducation. Alors, évidemment, vous voyez à quoi ça réfère aussi pour les Allemands de l'Est. Quand on leur dit ça, ils voient encore ces Allemands de l'Ouest qui leur donnent la leçon. Mmh. Et donc, il y a les images qui s'affrontent. Vous savez, il y a une image qui est assez habituelle en Allemagne, c'est les Allemands de l'Est qui se plaignent toujours, disaient les Allemands de l'Ouest, et eux répondent, bah oui, c'est ces Allemands de l'Ouest qui savent toujours mieux que nous. Mmh. Et donc, il y a un peu ce côté leçon, absence de démocratie en RDA, donc finalement, les Allemands de l'Est ne savent pas se comporter dans un régime démocratique. Deuxième explication, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers en RDA, donc il n'y a pas l'habitude de se confronter à l'altérité. On ne sait pas trop ce qu'est l'autre. Il est vrai qu'il n'y avait que, dans les années 80, que 1,2% d'étrangers. Donc ça, c'est... Et puis troisième élément, il n'y a pas eu de travail sur le passé nazi suffisant pour que les Allemands de l'Est investissent leurs responsabilités. Donc, vous voyez, ça, c'est le côté, la faute à la RDA. Et puis, il y a l'autre interprétation, qui est d'ailleurs une vraie discussion. Non, c'est pas la faute à la RDA. C'est à la faute à l'unification et à cet écrasement qu'on vient de décrire ensemble. Et si les Allemands de l'Est n'étaient pas dans une situation, hein, en quelque sorte, de relégation symbolique, de sentiment d'abandon, et puis finalement de faiblesse économique par rapport à l'Ouest, on n'en serait pas là.
Comment expliquez-vous le retour du nationalisme en Allemagne ? Daniel Cohn-Bendit, à ce micro, il y a quelques semaines, disait en substance que l'Allemagne s'était construite après-guerre sur le « plus jamais ça », un projet négatif entre mille guillemets, et qu'elle n'a plus aujourd'hui de récit mobilisateur pour penser, construire son avenir. Est-ce que vous partagez cette analyse pour essayer de comprendre la dynamique populiste ?
Pas complètement, pour deux raisons.
Pourquoi ?
D'abord parce que, effectivement, il y a eu un travail colossal de mémoire qui a été fait en Allemagne depuis 45. Il y a énormément de programmes scolaires, de programmes culturels, de muséographie. Tout est fait pour que l'histoire soit traitée de la manière la plus intéressante possible et la plus motivante. Donc ce travail continue. Donc ce plus jamais ça, il existe toujours. C'est pas parce que il y a l'AfD qui quand même reste un parti malgré tout très minoritaire. C'est pas parce qu'il y a tous ces mouvements-là que le travail de mémoire n'est pas fait par ailleurs. Dans les musées, dans les mémoriaux, tout ça existe toujours.
Mais est-ce que ça suffit aujourd'hui à créer un horizon mobilisateur politiquement ?
Non, mais il y a quand même eu la tentative d'un autre grand récit, Il y a eu deux grands récits allemands qui essayent de mobiliser. Le premier, c'est de dire finalement, maintenant, c'est l'histoire d'une démocratie heureuse. Il y a un grand récit qui dit, il y a eu la séparation, il y a eu les deux Allemagnes, il y a eu un miracle, c'est l'unification. Et maintenant, en quelque sorte, l'Allemagne reprend un cours heureux d'une démocratie accomplie. Donc ça, c'est quand même un grand récit, hein, l'idée de la démocratie heureuse. Et le deuxième grand récit, c'est de dire, on est une nation, mais notre nation ne s'appuie pas sur un nationalisme politique, elle s'appuie finalement sur une relation culturelle et ouverte et cosmopolite. Hein, le symbole de ça, c'est Berlin, hein, cette ville où il y a à peu près tous les spectacles, toutes les possibilités. Donc il y a quand même la tentative de créer une identité allemande, mais beaucoup plus tôt sur la culture, sur le cosmopolitisme et sur l'ouverture. Donc vous voyez, il y a quand même des grands récits en Allemagne qui essaient de contrebalancer ce que vous dites, à savoir le récit négatif. Maintenant, est-ce que ça suffit ?
Ça, c'est la grande question. Et elle est posée déjà au standard de France Inter. Quelques éléments rapides d'actualité avec vous, Nicolas Offenstadt, avant de donner la parole à nos auditeurs. On a appris cette semaine la disparition de Marceline Loridan, déportée à Auschwitz, grande amie de Simone Veil. Avec elle, ce sont les témoins directs de la Shoah qui disparaissent. Ce moment où seuls parleront les archives et non plus les victimes peut produire quoi ? Est-ce que c'est un moment en soi dangereux ou inquiétant ?
Je vous dirais assez fermement, pas dangereux du tout. Et je vais prendre l'exemple que je connais bien de la disparition des derniers soldats de 14-18. Vous savez, quand ils vieillissaient dans les années 60, il y avait une grande angoisse chez les derniers poilus. Ils disaient, mais qu'est-ce qui va se passer après nous ? Ils disaient, et après nous ? Plus rien. On ne va plus jamais parler des tranchées, on ne va plus jamais parler de la boucherie qu'on a subie. Il y a eu une angoisse véritable. Et en plus, on était dans les années 60, une époque évidemment où la jeunesse était très contestataire, ne voulait plus entendre parler du nationalisme et du patriotisme cocardier à l'ancienne. Donc une double angoisse. Non seulement on disparaît, mais en plus les jeunes se moquent de nous. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On constate qu'on n'a jamais autant parlé des soldats de 14-18. On n'a jamais autant parlé des poilus. Donc vous voyez, ce n'est pas leur présence physique finalement qui fait la mémoire. La mémoire, c'est quelque chose de compliqué, ça a une chronologie. Et on a vu que c'est finalement la génération des petits-enfants qui n'a pas cessé de rappeler la mémoire des soldats. Donc il n'y a pas à s'inquiéter a priori de la disparition des témoins. D'autant que aussi bien ceux de 14-18 que ceux de la Seconde Guerre mondiale ont quand même malgré tout beaucoup écrit, on les a beaucoup interrogés. Donc ce n'est pas des voix qui disparaissent au sens moral. Elles disparaissent physiquement, évidemment, on peut tous le déplorer. C'est un moment qui s'efface. Mais je ne crois pas du tout que la mémoire soit en danger avec la disparition des témoins. L'exemple de 14-18, en tous les cas, nous montre le contraire.
Les présidents de la République en France, vous le savez bien, et c'est l'une de leurs prérogatives qu'ils s'accordent peut-être même. En tout cas, ils écrivent l'histoire en reconnaissant le rôle de l'armée française dans la torture en Algérie, dans la mort de Maurice Audin, en annonçant ce matin des gestes pour les harkis, qui sont déjà symboliques, Légion d'honneur, Ordre du Mérite. Emmanuel Macron a-t-il apaisé, selon vous, cette période de l'histoire de France ?
À terme, je pense que oui. En tous les cas, c'est une position que je défendrai en général. Je pense que tous les points délicats de l'histoire doivent être mis sur la place publique. Un espace public démocratique mature qui permet de construire un rapport au passé assez sain, c'est celui qui discute de tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir toujours une seule position dans la lecture du passé. Il y a des interprétations et ça, ce n'est pas un souci. Mais je pense que mettre les choses sur la place publique et le faire de manière aussi ferme que ça a été fait pour l'affaire Audin, ça me paraît une excellente chose du point de vue même proprement historien. Hein, si on ne dit pas les choses comme elles ont été, et ce qu'a dit le président de la République, tous les spécialistes de la guerre d'Algérie, que je ne suis pas, l'ont reconnu, il a dit les choses comme il fallait les dire. Et donc je crois que ça, c'est le meilleur moyen de traiter les points durs du passé, c'est de les mettre dans le débat public. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à en parler. Je ne pense pas que la parole de l'État doit clore un débat. Je pense qu'il ne faut jamais qu'il y ait une parole officielle qui soit le discours de l'État sur le passé. Parce qu'évidemment, ça nous fait penser à des régimes.
Et là, les archives vont être ouvertes. Et c'est
il y en a déjà qui sont ouvertes, voilà, il y en a qui sont... Et puis les interprétations pourront évoluer, heureusement. Hein, l'histoire, c'est quand même une science qui est vivante. Donc on ne va pas figer une interprétation par un discours présidentiel. Aucun discours présidentiel ne fige une interprétation. Mais je crois que c'est un pas très important dans une discussion publique sur le passé.
Nicolas Offenstadt, avant-hier, le président de la République a annoncé également la création d'un musée mémorial pour les victimes du terrorisme. Comment recevez-vous un tel projet qui est assez vertigineux quand on y réfléchit trois minutes ?
Oui, il y a deux questions. C'est d'abord c'est un musée du présent en réalité, parce que le terrorisme n'est pas achevé. On le sait malheureusement, c'est que c'est un présent continu. Donc en ce sens, on est finalement dans une lutte politique en réalité. On n'est pas dans la mémoire, on n'est pas dans l'histoire. Donc le terme de musée peut paraître étonnant, Et c'est ça qui me frappe. On est dans une lutte politique et on est en fait dans un rapport de mémoire et pas du tout dans un rapport d'histoire. Il est évidemment trop tôt pour être capable de penser tout ce qui nous arrive. On peut donner des clés, on peut donner des lancements sur le passé, mais ça me paraît être un instrument de lutte du présent plus que de réflexion sur notre passé immédiat.
Qu'un musée puisse être d'une certaine manière un instrument de lutte contre le terrorisme sur le plan symbolique, intime de ses victimes, c'est très étonnant.
C'est étonnant et en même temps ça l'est pas, puisque vous le savez, en histoire, les musées ont souvent une intention en réalité. Beaucoup, par exemple, de musées sur la guerre, en fait, qu'est-ce que veulent les musées sur la guerre, y compris sur la Grande Guerre ? Ils veulent la paix. Donc en réalité, le discours d'un musée, c'est souvent de promouvoir quelque chose. Donc le musée n'est jamais neutre, pas plus que les discours présidentiels. Donc en ce sens, il n'y a pas à s'étonner qu'un musée soit un instrument de lutte. Et vous le savez, dans de nombreux pays, les musées d'histoire nationale sont des instruments de lutte. Et souvent des instruments de lutte pour fortifier un roman national, pour mettre en avant une lecture du passé. Donc le musée n'est jamais un discours neutre sur le passé, c'est toujours un instrument de lutte. Donc là, il n'y a aucune raison de s'en étonner.
Allez, 01 45 24 7000, la parole aux auditeurs de France Inter et auditrices. Bonjour Brigitte.
Allô ?
Oui Brigitte, nous vous écoutons.
Bonjour, je suis ravie d'avoir Nicolas Offenstadt en ligne. J'en profite pour le remercier pour... Les magnifiques séquences d'émotions qu'il nous a offert cet été.
Ah alors oui, voilà, sur France Inter, avec Ali Badou.
J'ai une question qui se raccroche directement à la question qui vient d'être traitée. Je voulais demander à Nicolas Offenstadt, parce que je connais son combat sur ce thème précis, si, compte tenu du fait que le gouvernement vient de reconnaître la responsabilité de l'État dans l'assassinat de Maurice Audin, est-ce qu'il pense que le gouvernement actuel va également enfin réhabiliter les fusillés pour l'exemple, puisque de toute la Grande Guerre, pas seulement 17, tous, et puisque, en fait, on approche à grands pas du centenaire de l'armistice. Et moi qui suis vraiment impliquée dans ce combat-là pour la réhabilitation des fusillés, je voudrais connaître son sentiment.
Merci beaucoup. Merci Brigitte. Restez en ligne Brigitte. Sur les fusillés pour l'exemple, Nicolas Offenstadt.
Je sais que le président de la République a été déjà sollicité à plusieurs reprises pour ça, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. Alors la question, elle est qu'à mon avis, ces fusillés ont été en fait largement réhabilités moralement déjà par François Hollande, puisqu'il a pris deux décisions très importantes. La première, c'est que l'histoire des fusillés de la Grande Guerre est maintenant racontée au musée de l'armée. Donc au cœur de ceux qui sont responsables de leur exécution, donc les militaires, cette histoire est racontée. Il y a plusieurs séquences aux Invalides qui rappellent la mémoire de ces fusillés. Et la deuxième décision qu'avait pris François Hollande était de rendre accessibles tous les dossiers. Dont n'importe qui peut aujourd'hui en ligne consulter le dossier des fusillés.
Donc d'une certaine manière... Mais un président qui dirait « ils étaient la France au même titre que les autres soldats », est-ce que c'est ça ce qu'il faudrait dire aujourd'hui ?
Ça a été dit.
De
cette manière-là, par trois, non pas seulement chefs d'État, mais responsables. D'abord Lionel Jospin à Craon, en 1998. Ensuite, Nicolas Sarkozy à Verdun a dit à peu près la même chose. Et François Hollande y est revenu aussi à plusieurs reprises. Donc je crois que aujourd'hui, c'est dit très clairement, non seulement les soldats fusillés, mais même les mutins. François Hollande, pour le centenaire de la bataille du Chemin des Dames, en 2017, on en avait parlé sur cette antenne, a dit très clairement que les soldats qui se sont rebellés en 1917 font partie de l'histoire de France et qu'il faut donc les aborder avec la même sérénité qu'on aborde d'autres points de l'histoire. Donc en ce sens, je pense que moralement et politiquement, ces soldats sont déjà réhabilités.
Mais
ce que
demande pas de monuments aux morts.
C'est des choses qui sont... Ils sont aussi, on peut les inscrire sur les monuments aux morts aussi, ça a été fait. Ce que demande sans doute l'auditrice et un certain nombre de gens, c'est qu'on les réhabilite juridiquement. Mais là, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut rejuger le passé ? C'est, à mon avis, extrêmement délicat. On rentre dans toute une autre logique. La réhabilitation morale et politique de ces soldats, je crois qu'elle est faite. Elle a été faite par plusieurs responsables, je l'ai dit. Maintenant, la question juridique, à mon avis, ce serait très délicat parce que réouvrir des dossiers et rejuger les soldats, d'ailleurs dont certains étaient coupables, par rapport au droit de l'époque, ce serait, à mon avis, une erreur.
Allez, on retourne au standard. Bonjour Julie.
Bonjour.
Vous êtes
moi,
là
Oui, je vous remercie pour votre émission.
Ben, on vous entend très très mal, Julie.
Moi, j'avais une question par rapport en fait au passage au pouvoir fort en Allemagne de l'Est. Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre en parallèle, par exemple, avec ce que disaient les témoins de l'ex-URSS dans le livre de Svetlana Alexievitch, La femme l'homme rouge, qui en fait se sont dit parce qu'ils n'avaient plus un pouvoir fort vis-à-vis d'eux. Et en fait, est-ce que par hasard la démocratie n'a pas failli finalement à leur donner un but dans leur nouvelle fonction?
Merci Julie pour cette question. Nicolas Offenstadt.
Oui, alors moi dans le livre dont on parlait tout à l'heure, j'ai interrogé beaucoup d'Allemands de l'Est et donc j'ai essayé de comprendre effectivement leur rapport aux politiques et leur rapport aux contemporains. Et je crois qu'en réalité il faut pas laisser sous-estimer, c'est-à-dire que tous les Allemands de l'Est n'adhéraient pas au régime politique en Allemagne de l'Est. Et même, ils pouvaient adhérer à certains aspects, notamment la protection sociale, ce qui leur donnait les meilleures garanties de vie, mais ils étaient parfois très critiques. J'ai rencontré une femme tout à fait exceptionnelle, qui a été comptable dans une usine. J'avais trouvé son dossier à l'abandon dans sa propre usine. Je l'ai rencontrée. Et elle était extrêmement ambiguë vis-à-vis du pouvoir. Elle me disait tout le temps, on se battait contre le parti dans l'entreprise. Moi, j'étais socialiste. Moi, j'avais envie de construire un régime progressiste. Mais le parti était toujours une entrave pour nous. Donc, elle luttait au sein de la RDA pour un régime socialiste tout en critiquant le régime. Donc, il faut pas croire que les Allemands de l'Est attendaient tout du régime, trouvaient ça très bien parce qu'ils étaient passifs. Ils avaient des rapports extrêmement différenciés. Il y avait des loyautés très modérées, des loyautés critiques, hein. Il y avait donc tout un ensemble de rapports. Et quand on dit qu'en quelque sorte, ils seraient aujourd'hui tout à fait dépendants du régime, c'est de croire que les acteurs adhèrent à tout ce qu'on leur dit. Alors, évidemment, ils se protégeaient. Ils avaient pas envie d'être poursuivis. Mais malgré tout, ils étaient capables déjà de distance critique, hein, et d'avoir un rapport très différencié.
Allez, je donne la parole à Maël. Bienvenue sur Inter, Maël.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Merci pour votre émission et merci pour ce sujet parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Personnellement, j'habite en Hongrie depuis quelques temps et je suis français, mais j'habite en Hongrie et j'ai l'occasion de me promener pas mal en Pologne, en Allemagne, grâce à mon travail. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, votre intervenant. Il y a juste un sujet sur lequel j'aimerais réinsister et revenir. En tout cas, c'est mon point de vue. J'aimerais avoir le commentaire de votre intervenant. J'ai l'impression que finalement, l'Allemagne de l'Est, tout comme la Pologne, tout comme la Hongrie actuellement, tout comme la Slovaquie en partie, il y a un certain déshérité. Enfin, les gens sont un peu déshérités, on va dire, quelque part. Les sentiments de laisser pour compte. Et que finalement, on a tendance rapidement à taxer les Allemands de l'Est, par exemple, de racistes ou d'autres, d'autre chose bien pire. Mais c'est un fait de populisme pour moi. Les gens simplement ne connaissent pas forcément l'étranger, n'ont pas eu l'occasion d'être confrontés comme nous, on a eu l'occasion à travers notre histoire. Et donc finalement, c'est simplement des populistes, comme on en a en France, qui profitent un peu de la situation, mais ce qu'ils ne font pas des Allemands de l'Est, des gens qui pourraient nous faire peur comme il y a 50, 60 ans, parce que c'est très vite, les Allemands font très vite peur à cause de ça, malgré eux, en grande partie. Donc je voulais avoir un peu le commentaire de votre intervenant.
Merci. Là-dessus. Merci Maël pour ce témoignage venu donc de Hongrie, Nicolas Offenstadt.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire votre auditeur. Et notamment, il y a une expression qu'il faut reprendre, ce sentiment de laisser pour compte. C'est quelque chose qui, dans l'enquête pour le livre, m'a beaucoup frappé. Hein, le sentiment, effectivement, qu'ils ne sont pas des Allemands comme les autres. Ils emploient parfois l'expression de citoyens de seconde zone. C'est quand même très fort, hein, dans une démocratie européenne aujourd'hui, d'avoir l'impression d'être des citoyens de seconde zone. Donc je crois que c'est tout à fait ça qui offre effectivement un boulevard aux populistes, comme l'a dit l'auditeur. Alors il y a quand même des spécificités aussi à l'Allemagne de l'Est, hein, qui est évidemment d'avoir été confronté à un autre passé, alors que dans d'autres pays du bloc de l'Est, évidemment, il y a parfois plus de continuité. Donc il y a en plus un miroir, hein, qui est celui de l'Allemagne de l'Est, qui les rend parfois, effectivement, avec plein de ressentiments aussi, lié à l'histoire depuis 1990, mais votre description me paraît tout à fait juste.
Merci, merci beaucoup Nicolas Offenstadt d'avoir été au micro d'Inter ce matin, d'avoir dialogué avec les auditeurs. Le pays disparu, très beau livre sur les traces de la RDA. Faut pas être historien pour le lire, juste être curieux de l'histoire récente de l'Europe. C'est publié chez Stock et je vous remercie une fois encore et vous salue.